Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829, écrites par Jean-François Champollion. Deuxième partie de 2 de la 14e lettre. Continuation de la description de Thèbes. Des tableaux religieux, exécutés avec beaucoup de soin, existent sous le fût des grandes et des petites colonnes de la salle hypostyle. On y voit successivement toutes les divinités égyptiennes du premier ordre, et principalement celles dont le culte appartenait d'une manière plus spéciale aux nommés diospolitains. Annoncer à Ramsès les bienfaits dont elles veulent le combler en échange des riches offrandes qu'il leur présente. Ici, comme dans la sculpture des piliers et des colonnes de la seconde cour, reparaissent en première ligne les divinités protectrices du palais, auxquelles ce bel édifice était plus particulièrement consacré. Celles-ci prennent toujours un titre qui se traduit exactement par « résident » ou « qui réside dans le Ramesséion de Thèbes ». À leur tête paraît Amon-Ra sous la forme du roi des dieux ou sous celle de générateur. Viennent ensuite les dieux Phtah, Phré, Atmou, Meoui, Sev et les déesses Pasht et Hathor. Chacune d'elles accorde au pharaon une grâce particulière. Voici quelques exemples de ces formules donatrices extraites des galeries et des colonnades du Ramesséion. J'accorde que ton édifice soit aussi durable que le ciel, Amon-Ra. Je te donne une longue suite de jours pour gouverner l'Égypte, Isis. Je t'accorde la domination sur toutes les contrées, Amon-Ra. J'inscris à ton nom les attributions royales du soleil, Thoth. Je t'accorde de vaincre comme Mandou et d'être vigilant comme le fils de Netphé, Amon-Ra. Je te livre le Midi et le Nord, l'Orient et l'Occident, Amon-Ra. Je t'accorde une longue vie pour gouverner le monde par un règne joyeux, Sev, Saturne. Je te donne l'Égypte supérieure et l'Égypte inférieure à diriger en roi, Netphé, Réa. Je te livre les barbares du Midi et ceux du Nord à fouler sous tes sandales, Thmei, la justice. Je t'ouvrirai toutes les bonnes portes qui seront devant toi, le gardien des portes célestes. Je veux que ton palais subsiste à toujours, Meoui. Je t'accorde de grandes victoires dans toutes les parties du monde, la déesse Pasht. Je t'accorde que ton nom s'imprime dans le cœur des barbares, la déesse Pasht. La portion des murailles de la salle hypostyle échappée aux ravages des hommes présente des scènes plus riches et plus développées. Sur le mur du fond, à la droite et à la gauche de la porte centrale, existent encore deux vastes tableaux, remarquables par la grande proportion des figures et le fini de leur exécution. Dans le premier, la déesse Pasht à tête de lion, l'épouse de Phtah, la dame du palais céleste, lève sa main droite vers la tête de Ramsès, couverte d'un casque, en lui disant « Je t'ai préparé le diadème du soleil, que ce casque demeure sur ta corne, le front. Où je l'ai placé. » Elle présente en même temps le roi au dieu suprême, Amon-Ra, qui, assis sur son trône, tend vers la face du roi les emblèmes d'une vie pure. Le second tableau représente l'institution royale du héros égyptien. Les deux plus grandes divinités de l'Égypte l'investissant des pouvoirs royaux. Amon-Ra, assisté de Mout, la grande mère divine, remet au roi Ramsès la faux de bataille, le type primitif de la harpée des mythes grecs, arme terrible appelée Chopsh par les Égyptiens, et lui rend en même temps les emblèmes de la direction et de la modération, le fouet et le pedum, en prononçant la formule suivante. Voici ce que dit Amon-Ra qui réside dans le Ramesséion. Reçois la faux de bataille pour contenir les nations étrangères et trancher la tête des impurs. Prends le fouet et le pedum pour diriger la terre de Kémé, l'Égypte. Le soubassement de ces deux tableaux offre un intérêt d'un autre genre. On y a représenté en pied et dans un ordre rigoureux de primogéniture les enfants mâles de Ramsès le Grand. Ces princes sont revêtus du costume réservé à leur rang. Ils portent les insignes de leur dignité, le pedum, et un éventail formé d'une longue plume d'autruche fixée à une élégante poignée, et sont au nombre de 23. Famille nombreuse, il est vrai, mais qui ne doit point surprendre si l'on considère d'abord que Ramsès eut, à notre connaissance, au moins deux femmes légitimes, les reines Nofré-Ari et Isé-Nofré, et qu'il est de plus très probable que les enfants donnés aux conquérants par des concubines ou des maîtresses prenaient rang avec les enfants légitimes. Usage dont fait foi l'ancienne histoire orientale tout entière. Quoi qu'il en soit, on a sculpté au-dessus de la tête de chacun des princes, d'abord le titre qui leur est commun à tous, savoir le fils du roi et de son germe, et pour quelques-uns, les trois premiers et les plus âgés par conséquent, la désignation des hautes fonctions dont ils se trouvaient revêtus à l'époque où ces bas-reliefs furent exécutés. Le premier se trouve ainsi qualifié, porte-éventail à la gauche du roi, le jeune secrétaire royal, Basilico Grammate, commandant en chef des soldats, l'armée, le premier-né et le préféré de son germe, Amenhi-Chopsh. Le second, nommé Ramsès comme son père, était porte-éventail à la gauche du roi et secrétaire royal, commandant en chef les soldats du maître du monde, les troupes composant la garde du roi. Et le troisième, porte-éventail à la gauche du roi, comme ses frères, titre donné en général à tous les princes sur d'autres monuments, était de plus secrétaire royal, commandant de la cavalerie, c'est-à-dire des chars de guerre de l'armée égyptienne. Je me dispense de transcrire ici les noms propres des 20 autres princes. Je dirai seulement que les noms de quelques-uns d'entre eux font certainement allusion soit aux victoires du roi au moment de leur naissance, tels que Neben-Shari, le maître du pays de Shari, Neben-Tonib, le maître du monde entier, Sanachté-Namun, le vainqueur par Amon, soit à des titres nouveaux adoptés dans le protocole de Ramsès le Grand, comme par exemple Pataveamun, Amon est mon père, et Septenri, approuvé par le soleil. Titre qui se retrouve dans le prénom du roi. J'observe en même temps dans cette série de princes un fait très notable. on y a, postérieurement à la mort de Ramsès le Grand, caractérisé d'une manière particulière celui de ses 23 enfants qui monta sur le trône après lui. Ce fut son 13e fils, nommé Menephtah, qui lui succéda. Il est visible qu'on a en conséquence modifié, après coup, le costume de ce prince, en ornant son front de l'uréus et en changeant sa courte sabot en longue tunique royale. De plus, à côté de sa légende première, où se lit le nom de Menephtah, qu'il conserva en montant sur le trône, on a sculpté le premier cartouche de sa légende royale, son cartouche prénom, Soleil, Esprit aimé des dieux, que l'on retrouve en effet sur tous les monuments de son règne. En sortant de la salle hypostyle par la porte centrale, on entre dans une salle qui a conservé une partie de ses colonnes et où la décoration prend un caractère tout particulier. Dans la portion de palais que nous venons de parcourir, des hommages généraux sont adressés aux principales divinités de l'Égypte, comme il convenait dans des cours ou des péristyles ouverts à toute la population, et dans la salle hypostyle où se tenaient les grandes assemblées. Mais ici commence véritablement la partie privée du palais et les salles qui servaient d'habitation au roi, le lieu qu'était censé habiter aussi, plus particulièrement, le roi des dieux auquel ce grand édifice était consacré. C'est ce que prouvent les bas-reliefs sculptés sur les parois à la droite et à la gauche de la porte. Ces tableaux représentent quatre grandes barques, ou baris sacrés, portant un petit naos sur lequel un voile semble jeté, comme pour dérober à tous les regards le personnage qu'il renferme. Ces baris sont portés sur les épaules par 24 ou 18 prêtres, selon l'importance du maître de la bari. Les insignes qui décorent la proue et la poupe des deux premières barques sont les têtes symboliques de la déesse Mout et du dieu Khons, l'épouse et le fils d'Amon-Ra. Enfin, la troisième et la quatrième porte les têtes du roi et de la reine, coiffées des marques de leur dignité. Ces tableaux, comme nous l'apprennent les légendes hiéroglyphiques, représentent les deux divinités et le couple royal venant rendre hommage au père des dieux, Amon-Ra, qui établit sa demeure dans le palais de Ramsès le Grand. Les paroles que prononce chacun des visiteurs ne laisse d'ailleurs aucun doute à cet égard. « Je viens, dit la déesse Mout, rendre hommage au roi des dieux, Amon-Ra, modérateur de l'Égypte, afin qu'il accorde de longues années à son fils qui le chérit, le roi Ramsès. « Nous venons vers toi, dit le dieu Khons, pour servir ta majesté, ô Amon-Ra, roi des dieux. Accorde une vie stable et pure à ton fils qui t'aime, le Seigneur du monde. » Le roi Ramsès dit seulement, « Je viens à mon père Amon-Ra, à la suite des dieux, qu'il admette en sa présence à toujours. » Mais la reine Nofré-Ari, surnommée ici Amosis, engendrée de la lune, exprime ses vœux plus positivement. L'inscription porte « Voici ce que dit la déesse épouse, la royale mère, la royale épouse, la puissante dame du monde, Amosis Nofré-Ari. Je viens pour rendre hommage à mon père Amon, roi des dieux. Mon cœur est joyeux de tes affections, c'est-à-dire de l'amour que tu me portes. Je suis dans l'allégresse en contemplant tes bienfaits. Ô toi qui établit le siège de ta puissance dans la demeure de ton Fils, le Seigneur du monde, Ramsès, accorde-lui une vie stable et pure, que ses années se comptent par période de panégyrie. Enfin, la paroi du fond de cette salle était ornée de plusieurs tableaux représentant l'accomplissement de ses vœux et rappelant les grâces qu'Amon-Ra accordait aux héros égyptiens. Il n'en reste plus qu'un seul, à la droite de la porte. Le roi est figuré assis sur un trône, au pied de celui d'Amon-Ra-Atmu, et à l'ombre du vaste feuillage d'un Perséa, l'arbre céleste de la vie. Le grand dieu et la déesse Saf, qui présidait à l'écriture, à la science, traçant sur les fruits cordiformes de l'arbre le cartouche prénom de Ramsès le Grand. Tandis que d'un autre côté, le dieu Thoth y grave le cartouche nom propre du roi, auquel Amon-Ra-Atmu adresse les paroles suivantes. « Viens, je sculpte ton nom pour une longue suite de jours, afin qu'il subsiste sur l'arbre divin. » La porte qui, de cette salle, conduisait à une seconde, également décorée de colonnes, dont quatre subsistent encore, mérite une attention particulière, soit sous le rapport de son exécution matérielle, soit pour les sculptures qui la décorent. Les bas-reliefs qui couvrent le bandeau et les jambages sont d'un relief tellement bas qu'il est évident qu'on les a usés avec soin pour en diminuer la saillie. J'attribuais ce travail au temps et à la barbarie qui a certainement agi sur plusieurs points de ces surfaces, lorsque, ayant fait déblayer le bas des montants de cette porte, j'ai lu une inscription dédicatoire de Ramsès le Grand dans les formes ordinaires pour les dédicaces des portes. Mais il y est dit, de plus, que cette porte a été recouverte d'or pur. J'ai étudié alors les surfaces avec plus de soin. En examinant de plus près l'espèce de stuc blanc et fin qui recouvrait encore quelques parties de la sculpture, je m'aperçus que ce stuc avait été étendu sur une toile, appliqué sur les tableaux, qu'on avait rétabli sur le stuc même les contours et les parties saillantes des figures avant d'y appliquer la dorure. Ce procédé m'ayant paru curieux, j'ai cru utile de le noter ici. Mais les deux tableaux qui ornent cette porte offrent un intérêt bien plus piquant. Le bandeau et le haut des jambages sont couverts d'une douzaine de petits bas-reliefs représentant le roi Ramsès, adorant les membres de la triade thébaine. Ces divinités tournent toutes le dos à l'entrée de la porte en question, parce qu'elles sont seulement en rapport avec la première salle et non avec la seconde, à laquelle cette porte sert d'entrée. Mais au bas des jambages, et immédiatement au-dessus de la dédicace, sont sculptées deux divinités, la face tournée vers l'ouverture de la porte et regardant la seconde salle qui était par conséquent sous leur juridiction. Ces deux divinités sont, à gauche, le dieu des sciences et des arts, l'inventeur des lettres, Thoth à tête d'ibis, et à droite, la déesse Saf, compagne de Thoth, portant le titre remarquable de « Dame des lettres présidente de la bibliothèque », mot à mot, la salle des livres. De plus, le dieu est suivi d'un de ses parèdres, qu'à sa légende et à un grand œil qu'il porte sur la tête, on reconnaît pour le sens de la vue personnifié, tandis que le paraître de la déesse et le sens de l'ouïe, caractérisé par une grande oreille tracée également au-dessus de sa tête, et par le mot « solem », l'ouïe, sculpté dans sa légende. Il tient de plus en main tous les instruments de l'écriture, comme pour écrire tout ce qu'il entend. Je demande s'il est possible de mieux annoncer que par de tels bas-reliefs l'entrée d'une bibliothèque. Et à ce mot, la controverse qui divise nos savants sur le fameux monument d'Ozymandias, si connu par sa bibliothèque et sur ses rapports avec le Ramesseion, se présente naturellement à ma pensée. Dès les premiers jours, en lisant au milieu des ruines du Ramesseion la description que Diodore nous a conservée du monument d'Ozymandias, je fus frappé de retrouver autour de moi, et dans le même ordre, les parties analogues et presque les mêmes détails du grand édifice dont Diodore emprunte à Hécaté une notice si complète. D'abord, l'ancien voyageur grec place le monument d'Ozymandias à 10 stades des derniers tombeaux de ce qu'il nomme les Palachidas του Θεού, les concubines de Jupiter, Amon. Nous avons trouvé, en effet, à une distance à peu près égale du Ramesseion, une vallée renfermant les tombeaux, encore ornés de peintures et d'inscriptions, d'une douzaine de femmes, mais de reines égyptiennes, dont le premier titre dans leur légende fut toujours celui d'épouse d'Amon. Le monument d'Ozymandias s'annonçait par un grand pylône de pierres variées. Lithou Pichilou, écrit en caractère grec. Le premier pylône du Ramesseion, dont les massifs sont en grès rougeâtre et la porte en calcaire blanc, a quelques analogies avec cette expression. Ce pylône donnait entrée dans un péristyle dont les piliers étaient ornés de figures colossales. On passait de là à un second pylône, bien plus soigné que le premier, sous le rapport de la sculpture, et à l'entrée duquel se trouvait le plus grand colosse de l'Égypte, d'un seul bloc de granit de Sienne. Tout cela se rapproche du Ramesseion, à quelques différences de mesure près, mais l'exactitude des anciens copistes, transcrivant les quantités de ces mesures, est-elle certaine? Là existent encore aujourd'hui les immenses débris du plus grand colosse connu de l'Égypte. Il est en granit de Sienne. Ce sont là des traits remarquables. Dans le péristyle qui suivait le pylône, dit Hécaté, on avait représenté le roi, qu'on appelle Ozymandias, faisant la guerre aux révoltés de Bactriane, assiégeant une ville entourée des eaux d'un fleuve, etc. C'est la description exacte des bas-reliefs encore existants sous le deuxième péristyle du Ramesseion. Et si l'on n'y voit plus le lion combattant avec le roi contre les troupes ennemies, ni les quatre princes commandant les divisions de l'armée, c'est que les murs du fond du péristyle sont détruits et qu'il n'en subsiste pas la huitième partie. Il est vrai qu'on voit ailleurs, sur les monuments d'Égypte, des rois assiégeant des villes entourées par un fleuve. Cela existe réellement à Ipsamboul, à Derry, sur les pylônes de Louxor et au Ramesseion. Mais tous ces monuments sont de Ramsès le Grand et reproduisent les événements de la même campagne. Sur le second mur du péristyle, dit la description du monument d'Ozymandias, sont représentés les captifs ramenés par le roi de son expédition. Ils n'ont point de mains ni de parties sexuelles. Et sur le mur de fond du péristyle du Ramesséion, j'ai mis à découvert, par des fouilles, les restes d'un tableau dans lequel on amène des prisonniers au roi, au pied duquel sont des monceaux de mains coupées. Sur un troisième côté du péristyle du monument d'Ozymandias étaient représentés des sacrifices et le triomphe du roi au retour de cette guerre. Au Ramesséion, le registre supérieur de la paroi sur laquelle est sculptée la bataille représente la fin d'une grande solennité religieuse à laquelle assistent le roi et la reine, et ce tableau commençait, sans aucun doute, sur le mur de fond du côté droit du péristyle. On entrait ensuite, dit l'historien grec, dans la salle hypostyle du monument d'Ozymandias par trois portes ornées de deux colosses. Tout cela se trouve exactement au Ramesséion, immédiatement aussi après le second péristyle. Après la salle hypostyle de l'Ozymandieion, venait un espace désigné dans les traductions sous le nom de promenoir. Dans le Ramesséion, une salle décorée des barques symboliques des dieux succède à la salle hypostyle. Ensuite, a dit Diodore, venait la bibliothèque, et c'est effectivement sur la porte qui, du promenoir du Ramesséion, conduit à la salle suivante, que j'ai trouvé des bas-reliefs si convenables à l'entrée d'une bibliothèque. La salle de la bibliothèque est presque entièrement rasée. Il n'en reste que quatre colonnes et une portion des parois de droite et de gauche de la porte. Sur ces murailles, on a sculpté des tableaux représentant le roi faisant successivement des offrandes aux plus grandes divinités de l'Égypte, à Amon-Ra, Mout, Khons, Fré, Phtah, Pasht, Nofré-Thmou, Atmou, Mandou et, en outre, la plus grande partie de la surface de ces parois est occupée par deux énormes tableaux divisés en de nombreuses colonnes verticales, dans lesquelles sont trois longues séries de noms de divinités et leurs images de petites proportions. C'est un panthéon complet. Le roi, debout devant chacun de ces tableaux synoptiques, fait nommément des libations et des offrandes à tous les dieux ou déesses grandes et petites. Et c'est encore ici un rapport avec le monument d'Ozymandias. On voit dans la salle de la bibliothèque, dit en effet la description grecque, les images de tous les dieux de l'Égypte. Le roi leur présente, de la même manière, des offrandes convenables à chacun d'eux. Cette comparaison des ruines du Ramesséion avec la description du monument d'Ozymandias, conservé dans Diodore de Sicile, a été déjà faite, et avec bien plus de détails encore, par messieurs Jolois et De Villiers, dans leur description générale de Thèbes, travail important auquel je me plais à donner de justes éloges, parce que j'ai vu les lieux et que j'ai pu juger par moi-même de l'exactitude de leur description. Mais j'ai dû reproduire rapidement ce parallèle dans cette lettre par le besoin de mettre à leur véritable place quelques faits nouveaux que j'ai observés et qui rendent si frappante l'analogie du monument décrit par les Grecs avec le monument dont j'étudie les ruines. Les deux savants voyageurs que je viens de citer ont mis en fait leur identité. D'autres l'ont combattu. Pour moi, voici ma profession de foi toute simple. Deux points. De deux choses l'une, ou le monument décrit par Hécaté sous le nom de monument d'Ozymandias est le même que le Ramesseion occidental de Thèbes, ou bien le Ramesseion n'est qu'une copie, à la différence des mesures près, si l'on peut s'exprimer ainsi, du monument d'Ozymandias. Ici se terminent les débris du palais de Sésostris. Il ne reste plus de traces de ces dernières constructions, qui devaient s'étendre encore du côté de la montagne. Le Ramesseion est le monument de Thèbes le plus dégradé, mais c'est aussi, sans aucun doute, celui qui, par l'élégante majesté de ses ruines, laisse dans l'esprit des voyageurs une impression plus profonde et plus durable. J'aurais pu passer encore bien du temps à son étude sans l'épuiser. Mais d'autres monuments de la rive opposée du Nil, où est toujours Thèbes, m'arrachent à ces merveilles. Et je pense à la France. Adieu. Fin de la deuxième partie de deux et conclusion de la 14e lettre ainsi que du 15e fichier des lettres écrites d'Égypte et de Nubie par Jean-François Champollion.